RCF et l'Association des paralysés de France vous présentent L'APF vous accueille. Une émission présentée par Yvonne Ollier.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui est loin, qui est très loin de nous, à quelques 300 et quelques kilomètres, puisqu'elle habite dans la Drôme. Bonjour Anne-Marie Amoussou à Deuil-Bol.
Oh là là, quel nom à allonge.
Oh ouais, c'est difficile à prononcer tout ça. Hein.
Bonjour Yvonne.
Alors, Anne-Marie, eh bien, vous êtes dans la Drôme, vous êtes à côté de Valence, on va dire Cray exactement.
Voilà.
Vous habitez une jolie ville.
Un petit village de 2500 âmes bientôt.
Oui.
Quand j'y suis arrivée, il y avait à peine 2000 habitants, donc il a suivi l'évolution du monde.
Ah voilà, tout le monde vous a suivi en fait.
Oui, enfin, façon de parler.
Voilà, donc vous êtes drômoise d'origine.
Je suis drômoise d'origine. J'ai été mariée pendant plus de 30 ans avec un Africain.
Oui.
Et nous avons eu deux beaux enfants.
Voilà.
Qui tous les deux ont une grande chance, c'est de travailler dans quelque chose qui leur plaît.
Ah, ça, c'est une chance aujourd'hui, oui.
Enfin, ils ont quand même travaillé pour obtenir la situation qu'ils ont.
Oui, tout à fait.
Voilà, hein. Mais c'est une grande chance quand même. Et je suis l'heureuse grand-mère d'un quatuor de petites filles.
D'accord.
Du blond au noir le plus foncé. Et je trouve que c'est merveilleux.
Ben voilà, tout à fait. Alors vous avez une vie un petit peu atypique, hein, même déjà par avec vos enfants déjà, mais vous avez donc un garçon et une fille. Que fait le garçon ?
Mon fils est haut fonctionnaire de l'État français.
Oui.
Et actuellement, il est au grade de sous-préfet, mais il travaille au ministère de l'Intérieur à Paris pour encore quelques mois.
D'accord.
Avant de retrouver probablement une sous-préfecture ou une préfecture selon le poste qui lui sera proposé.
D'accord, donc il se balade en France, je crois qu'il a fait déjà pas mal de...
Oui, il se balade en France, grâce à lui j'ai fait un petit tour de France.
Voilà, ben, vous voyez comme quoi il y a toujours des avantages. Et votre fille par contre elle est plus proche, plus près de vous dans la...
Elle est installée, vit à côté de mon domicile, elle est traductrice médicale tout en étant professeure agrégée d'anglais dans un collège, voilà.
Oh là là, c'est plein de choses tout ça.
Oui, mais c'est le résultat de leur travail.
Voilà.
Je ne suis pas pour grand-chose, si ce n'est une initiation, une certaine manière de faire peut-être, enfin...
Voilà, vous êtes quand même à l'origine déjà de la naissance, ce qui est quand même déjà beaucoup.
Oui.
Hein, quand même. On va au moins avoir ce grade.
Pour quelque chose.
Oui, tout à fait.
Même si nous ne sommes plus ensemble à l'heure actuelle, le handicap n'y est pas tout à fait pour rien, donc...
Voilà, parce que donc, vous êtes une personne handicapée.
Voilà, je suis une personne handicapée, je suis hémiplégique depuis plus de 20 ans.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus ? Comment, donc vous, à l'époque, vous étiez en activité, je présume ?
Oui, j'avais mes deux jambes et mes deux bras qui me servaient. J'étais enseignante moi-même, en collège. Et un mercredi matin, je me suis levée et je suis retombée. Et je suis restée une dizaine d'heures sans que personne ne s'aperçoive de rien. Parce que mon mari était professeur d'université à Toulouse et donc assurait ses cours. Et mes enfants étaient à ce moment-là à l'université.
Donc vous êtes restée toute seule ?
Je suis restée toute seule pendant environ une dizaine d'heures. Et c'est mon père qui, ne me voyant pas venir, parce qu'il avait l'habitude que le mercredi matin, j'aille chez eux pour faire le ménage, ma mère ayant eu un infarctus quelques mois avant, ils avaient l'habitude que je vienne faire le ménage chez eux. Et ne voyant rien arriver, il a pris contact avec l'école en disant « Elle a dû travailler ce mercredi ». Et le secrétariat lui a dit « Mais non, Madame Amoussou est chez sa mère ».
D'accord. Et donc là, il y a eu un branle-bas de combat.
Un branle-bas de combat, mais c'était déjà bien tard parce que je n'avais pas réussi à ouvrir la porte qui donnait à l'extérieur. Donc personne n'a pu rentrer dans mon domicile avant de faire venir la gendarmerie, les pompiers, l'accord du maire, enfin...
Voilà, tout ce qu'il faut pour, voilà, pour pénétrer chez quelqu'un. Oui, et comment ça... Comment on vit, parce que vous étiez consciente pendant toutes ces heures ?
Ben, disons que j'ai été partiellement inconsciente et partiellement consciente. Je ne me suis pas rendue compte du temps qui passait. Je me suis vraiment... Enfin, j'ai repris conscience quand le médecin était là. Et j'ai compris relativement vite ce qui m'arrivait. Mais je n'avais pas les mots pour l'exprimer.
Vous aviez déjà eu des alertes ou...
Pas du tout. pas du tout, pas du tout. En maison de rééducation, on m'a fait comprendre que c'était parce que j'avais eu une vie de patachon, que je fumais, que je buvais. Or, rien de tout cela n'était exact. Alors finalement, après de multiples analyses, examens, scanners et autres, la médecine n'aimant pas dire qu'elle ne sait pas, m'a dit, madame, c'est probablement génétique ou c'est un virus.
Ah d'accord, oui, bon, alors moi, ils se mouillaient pas, hein.
Voilà.
Ils ne se sont pas mouillés pour vous dire ça.
Eh ben non.
Ben oui.
Mais c'est très pratique parce qu'un médecin ne dira jamais je ne sais pas.
Ben oui, voilà. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça.
Ou je ne peux pas, il ne dira pas.
Ouais. Et donc, ben voilà, donc vous avez eu...
Je me suis retrouvée du jour au lendemain en fauteuil roulant. Et j'y suis d'abord restée 3 ans en fauteuil roulant. Et puis j'ai réappris à marcher en dépit du pronostic très sévère des médecins qui avaient assuré à mes parents que je ne remarcherai probablement jamais, que je serai grabataire.
Oui, donc comme quoi
les 6 premiers mois qui ont suivi mon accident vasculaire, eh bien, je n'ai pas pu me tenir debout. Donc, il paraît qu'on ne peut pas se rééduquer à partir de ce moment-là.
Alors qu'aujourd'hui, vous marchez, bon, difficilement...
Difficilement, et puis j'ai retrouvé le fauteuil roulant depuis le mois de février. Mais, bon, je me suis rééduquée partiellement.
Oui, parce que pendant 20 ans, à peu près, vous avez marché, vous n'aviez pas de fauteuil du tout.
J'avais toujours mon fauteuil pas très loin, mais je me déplaçais avec une canne.
Oui, voilà.
Parce que, bon, on a une certaine fierté, une certaine... Enfin, c'est plus facile quand même de se déplacer avec une canne qu'avec un fauteuil.
Bien sûr.
Alors, comme j'ai quand même souvent voyagé, même pendant ces 20 ans de mon handicap, et que j'étais accompagnée par ma fille, qui était une jeune fille, une jeune femme qui n'est pas très grosse, il fallait mieux que je sois le plus légère, que je me débrouille le plus possible.
Oui, c'est vrai qu'elle est quand même bien grignette, cette jeune fille.
Oh, cette jeune femme, elle est pas grignette, mais enfin, elle est pas mal, quoi, c'est tout.
Oui, 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 tout à fait. Elle n'a pas une force phénoménale pour vous relever, par exemple, si voilà, vous deviez tomber.
Donc
vous avez, ça vous a pas empêché de vivre, en fait. Mais est-ce que vous connaissiez le handicap? Est-ce que vous aviez été confronté par des connaissances ou autres au monde du handicap avant?
Le handicap m'a suivi, je vais dire, depuis toute petite, parce que j'avais une tante qui était atteinte de sclérose en plaques. Et mes parents s'occupaient partiellement des enfants parce que ma tante avait, se connaissait la sclérose en plaques. Il y a des périodes de grande souffrance et puis après une remontée. Enfin, donc pour soulager mon oncle, eh bien mes parents sont beaucoup occupés de mes 3 cousins.
Voilà, donc vous aviez quand même une connaissance.
Une connaissance du handicap. Et puis en tant qu'enseignante, j'avais accepté de m'occuper relativement de près d'un professeur que je connaissais qui était atteint de myopathie, avec lequel j'avais beaucoup travaillé et que j'avais emmené en Angleterre pour organiser des voyages avec les élèves. Enfin, par ce biais-là, je connaissais pas mal le handicap, oui.
D'accord. Est-ce que vous pensez...
C'était l'assistance technique de la personne handicapée.
Voilà. Donc...
Et après, ben, je suis devenue... La personne a aidé, c'est voilà. Tout à fait différent.
Mais est-ce que vous pensez que cette connaissance du monde du handicap vous a permis de mieux accepter votre état et de construire votre vie à base de ça?
Pas réellement. Je ne crois pas réellement parce qu'en fait, on se trouve seul face à son handicap et ce que l'autre a vécu n'est pas ce que l'on vit soi-même.
Oui, mais ça peut peut-être quand même donner une... on n'a pas le choc de la découverte du handicap, puisqu'on le connaît, même si c'est pas le même, on le connaît un peu déjà.
Ah ben, on a le choc du handicap, parce que c'est le handicap pour soi à ce moment-là.
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, tout à fait. Comment vous avez géré votre vie à partir de ce moment-là? Puisque, bon, vous l'avez dit, pendant 6 mois, vous n'avez rien pu faire.
Donc, je suis d'abord restée plus de 6 mois en institution de rééducation. Quand je suis sortie, je faisais 3 pas et demi. Vraiment pas 4, et j'ai eu la grande chance d'avoir des parents accueillants. Ils m'ont accueilli pendant 6 autres mois à leur domicile qu'ils avaient fait aménager avec des rampes, avec enfin tout ce qui m'était nécessaire. Donc
vous avez pu...
Je suis sortie de la maison de rééducation pour aller chez mes parents pendant 6 mois. Et pendant ça, mes enfants se sont débrouillés seuls à l'université comme ils pouvaient, quoi. Et puis pendant les vacances de juillet, j'ai voulu rentrer chez moi. Seulement, la maison n'était pas du tout adaptée.
Donc, il a fallu tout recommencer.
Eh bien, il a fallu recommencer une adaptation Et la plus grosse adaptation étant les sept marches d'escalier qui séparaient le lieu de vie de la journée au lieu de couchage et salle de bain et autres.
Ah oui, ça c'est pratique.
Ça n'a pas été tout à fait évident. Mais je suis tombée sur un kiné qui vraiment m'a fait confiance. Et un jour, je me suis plantée avec lui devant les escaliers et je lui ai dit, c'est pas compliqué. La seule chose que je veux, c'est que tu m'apprennes à monter les escaliers. Tu me montres comment il faut que je parte parce que j'étais incapable d'analyser moi-même le problème et de trouver une solution pour que je puisse monter les escaliers. Je veux absolument les monter. La réponse que j'ai eue m'a fait un peu froid dans le dos. Il m'a dit, mais enfin, est-ce que tu as vu ton scanner? J'ai dit, mais c'est pas le scanner qui m'intéresse, c'est le but.
Oui.
Et donc, effectivement, j'ai la moitié du cerveau qui est détruite, y compris l'hypothalamus, donc c'est relativement lourd comme séquelle.
Oui, bien sûr.
Mais enfin, 10 jours après, je montais mes escaliers. Pas de façon très catholique.
Oui, bon, ça, l'essentiel, c'est de les monter.
Parce que j'en avais marre de demander à mon fils, Patrick, veux-tu m'accompagner, s'il te plaît, il faut que je monte et...
Ah oui, bien sûr. Et les monter, c'est une chose, mais les descendre?
Ah ben, c'est le même problème, à l'envers, mais il faut partir, on part pas du même pied. Puisque moi, je suis hémiplégique gauche, quand on monte, on part du pied droit, et quand on descend, on part du pied gauche.
D'accord, mais vous n'avez jamais eu peur de tomber dans ces escaliers?
J'ai jamais eu peur, non. Mais j'ai eu le vertige dedans. Et il faut toujours se dire, avant d'entreprendre quelque chose comme ça, on se met en face de la difficulté, on dit donc, pied droit, pied gauche. Enfin, moi, c'était ma technique.
Oui.
Une répétition continuelle.
Sacrée volonté, hein.
Et pour marcher, c'était pareil. Il fallait que je me dise pied droit, pied gauche pendant les 100 premiers mètres.
Ouais.
Mais j'étais contente parce que je suis quand même arrivée à marcher pendant plus d'une heure. Bon, maintenant, je ne peux plus le faire. Mais j'étais arrivée à me réadapter pendant plus d'une heure.
Voilà, donc de pouvoir quand même pousser votre corps à accepter ce que vous lui demandiez, tout simplement.
Oui.
C'est une sacrée volonté que vous avez quand même. Vous avez un gros caractère qui vous permet de passer tout
certains,
ça.
Vous êtes gentil, merci. Certains disent que j'ai un caractère un peu dur, que j'ai un peu parfois mauvais caractère, on vous dira.
Non, moi, je pense pas. Bon, en plus, je vous connais, donc je sais que le caractère n'est pas mauvais, loin de là, bien au contraire. Il est tellement humain, tellement rieur, tellement plein de volonté et de joie, mais quand même, est-ce que vous pensez que vous aviez déjà ce caractère-là, ou si c'est justement cette épreuve qui vous a permis de le mûrir de cette façon?
Non, je pense que j'ai toujours eu un caractère comme ça, parce que ma vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il n'y a aucune vie, je pense qu'il est, de toute façon.
Non, puis c'est pas marrant si ça l'est.
Extraordinaire, c'est d'avoir des parents merveilleux.
Ça a été votre soutien tout le temps?
Tout le temps. Et tout au long des étapes de ma vie, enfin, des parents qui eux-mêmes avaient eu un parcours un peu particulier, puisque mes parents, ma mère était institutrice, mon père employé de banque, et en 1947, après être sortis de la résistance et de tous ces problèmes-là, mon père et ma mère ont décidé de faire, bien avant l'heure, un retour à la terre.
Ah oui, donc c'est...
Donc ils se sont orientés vers l'agriculture, mais sans avoir de possession terrienne, on va dire. Donc ils ont toujours travaillé pour les autres et chez les autres, mais à leur façon. Ils ont toujours été maîtres chez eux.
D'accord. Est-ce qu'on va... On va faire une petite pause musicale. On leur dédie cette chanson que vous avez choisie?
Oui, oui, je veux bien.
Alors, je vous laisse la présenter, cette chanson.
Donc, cette chanson a été écrite par Francis Cabrel entre 1977 et 1987, mais je ne sais pas la date exacte.
Oh, on va vous pardonner.
Voilà. C'est donc avec le titre « Il faudra leur dire ».
Voilà, « Il faudra leur dire » de Francis Cabrel. On écoute « Pour vos parents ».
Regarde, assis la paix,
Voilà, eh bien, nous nous sommes laissés bercer par cette merveilleuse chanson. Anne-Marie, merci de nous l'avoir offerte. En tout cas, elle était avec la pensée de vos parents qui vous ont ô combien aidé. Alors, on continue un petit peu le parcours ?
Mais je vous en prie.
Voilà, donc vous nous avez laissé chez vos parents, qui vous avaient accueilli et vous ont permis de reprendre. Et puis ensuite, eh bien, au mois de juillet, donc vous nous avez dit, vous êtes rentrée.
Je suis rentrée à mon domicile.
Oui, pour les vacances, avec cette fameuse marche.
Qui a pris ses vacances universitaires, et mes enfants sont rentrés aussi.
Voilà.
La vie a essayé d'être un petit peu comme avant.
Voilà, donc vous avez fait une adaptation, vous nous avez raconté donc les difficultés de l'adaptation.
Oui.
Et puis petit à petit, eh bien...
La vie s'est construite autrement, parce que j'avais une maison ouverte, les gens, enfin nous connaissions beaucoup de monde outre-mer, puisque nous avions fait un long séjour en Afrique noire, un autre en Algérie, donc les gens passaient, dormaient, étaient nourris, logés, et puis du jour au lendemain, j'ai dit stop, je ne peux plus, c'est moi qui ai besoin d'être aidée. À ce moment-là, on compte ses vrais amis.
Oui, comme toujours.
Mais bon, ça s'est passé quand même. J'ai quand même continué à recevoir un petit peu, parce que ma maison est toujours ouverte et je ne concevais pas, même en étant handicapée, de la fermer. Donc, j'ai eu des surprises parfois. Je me réveillais le matin, il y avait des tentes dans le jardin.
Ah, c'est pas mal ça. Même aujourd'hui, vous...
Disons qu'aujourd'hui, je reçois, oui, mais je suis beaucoup aidée par ma fille, puisqu'elle a une maison qu'elle a fait construire de manière mitoyenne à la mienne, et nous pouvons passer d'une maison à l'autre sans problème. Nous avons fait un sol à même hauteur, enfin, je peux y aller en fauteuil roulant, donc il n'y a pas de problème.
Voilà, donc vraiment adapté complètement à vous, pour pouvoir justement continuer d'accueillir, et avec votre fille, de pouvoir avoir des contacts très, très directs.
De temps en temps, de pouvoir m'occuper de mes petites filles, parce que maintenant qu'elles ont un petit peu grandi, 10 ans et 4 ans, je peux les garder sans problème, alors que quand elles étaient bébés, il m'était impossible de les changer, puisque je n'ai l'utilisation que d'une main.
Eh oui. Alors, parlez-moi un petit peu de ces petites filles, parce qu'elles ont une histoire, ces deux enfants.
Ces deux petites filles, elles ont une histoire qui est leur histoire. Alors, je vais la dire de manière très succincte.
Oui, bien sûr.
Sans m'y attarder, parce que c'est la leur.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais juste pour dire...
Alors, ma fille, qui maintenant a 42 ans, a appris à l'âge de 23 ans, 24 ans, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant, étant atteinte d'une endométriose sévère.
Oui.
Donc, à partir de ce moment-là, même si elle a eu des rencontres, quand elle ne pouvait pas accepter d'avoir une rencontre sans que le partenaire éventuel soit au courant du problème, eh bien, il y a eu un départ qui l'a beaucoup fait souffrir, parce que elle avait confiance dans ce jeune homme, et en fait, quand il a su qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, il a dit, ah ben non, moi je veux des enfants.
D'accord, et pourtant il y a d'autres moyens d'en avoir.
Bon, alors, elle a fait son deuil de cette relation et elle a essayé de construire sa vie en ayant des enfants et en faisant toutes les démarches donc pour l'adoption, qui l'a amenée à adopter deux petites filles.
Voilà, qui sont de quel pays ?
Qui sont d'origine malienne.
Voilà, mais c'était important, je crois, de le dire, parce que c'est votre histoire aussi, quelque part, c'est la prolongation de votre vie. Et Dieu sait si ces petites filles sont importantes pour vous aujourd'hui.
Ben bien sûr.
Comme les deux autres d'ailleurs, mais que vous voyez un peu moins.
Que je vois un peu moins, puisqu'elles sont actuellement sur Paris.
Oh, vous les voyez quand vous montez à l'APF quand même.
De temps en temps, mais pas forcément tout le temps, parce qu'il faut dire que l'APF c'est dans le 13e arrondissement, qu'ils habitent à Maison Lafitte.
Ce qui n'est pas tout à fait à côté.
Pas tout à fait à côté, et que les horaires de bureau de mon fils, vu ses responsabilités... Il lui arrivait jusqu'à maintenant très souvent de rentrer chez lui à 10 heures du soir.
Et oui.
Donc c'était assez compliqué de conjuguer l'APF et les visites à mon fils.
Voilà. Et bon, de temps en temps, je sais que quand voilà. Vous montez en réunion à Paris, eh bien vous avez la possibilité de voir votre fils voilà, un peu plus.
Nous sommes allés en réunion à Poitiers. Il était à ce moment-là à Château-Chinon, et il est venu me voir.
Voilà. Oui, voilà. Ça, je me souviens.
Oui, oui.
Je me souviens tout à fait. C'est d'ailleurs un bel homme. Très,
merci,
très bel homme.
Merci. C'est un beau garçon, c'est vrai.
Oui, oui, tout à fait. Ben oui, on peut le dire. Hein. Mais vous avez deux très très beaux enfants qui sont très très beaux. Oui, c'est vrai. Et les petites filles.
Très ouverts sur la vie et ils ont su faire travailler leur intelligence. Ils ont su ma foi, gérer leurs difficultés, parce que ce n'est pas non plus sans difficulté d'être différent des autres.
Non, tout à fait. Là aussi. Donc, c'est une autre différence que le handicap, mais qui n'est pas toujours facile à gérer. Tout à fait. Comment, puisque bon, tous les deux sont de couleur... Voilà, ils sont relativement typés quand même. Hein,
oui, bien sûr, oui.
Et donc, c'est vrai que ça aussi, c'est pas toujours simple à gérer.
C'est pas toujours simple à gérer.
Alors, ces petites filles, vous les...
Quand ma fille était en collège, qu'elle était en cinquième, elle avait déjà des problèmes de santé à cause de son endométriose. Et un jour, elle est allée à l'infirmerie. Et alors, l'infirmière lui a dit, je vais appeler tes grands-parents, puisque moi, j'étais à l'étranger avec mon mari, et c'était mes parents qui les avaient en responsabilité. Et alors, ma fille a dit, oui, il faut appeler mon grand-père et ma grand-mère. Et l'infirmière lui a dit, oui, tes grands-parents adoptifs. Et alors, elle a dit, non, ce sont mes parents. Mes grands-parents, parce que ce sont les parents de ma mère. Et ma mère est blanche, c'est ma mère biologique.
Eh oui.
Il a fallu donner des explications, et j'ai trouvé que c'était odieux.
Ah oui, tout à fait. C'est pas très sympa. Après tout, l'essentiel, c'est d'être parent. C'est, quelle que soit la façon dont on est parent, l'essentiel...
Exactement, il y a plusieurs façons de rentrer dans les familles.
Tout à fait.
Bon, il y a la façon fait maison, c'est sûr que c'est la mieux, on va dire. Mais il y en a tellement d'autres que...
Tout à fait. Et puis, bon, les autres permettent à des enfants qui n'avaient plus de maison d'en retrouver une. Et c'est quand même drôlement important.
Exactement.
Et ça, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle de ces enfants. Parce que, après, comme vous le dites, c'est leur histoire. Mais c'est important dans la vie de...
Dans l'histoire de l'adoption, il ne faut pas oublier aussi que l'enfant adopté, il trouve un certain bénéfice, c'est sûr. Mais que la personne adoptante aussi, il trouve son content.
Bien sûr, ça ne peut être qu'un partage.
C'est un partage.
Tout à fait. Et Dieu sait si votre fille partage avec ses filles. Hein. Et la grand-mère aussi, je crois.
Mais oui.
elle sent en tout cas un sacré rayon de soleil. Comment aujourd'hui vous gérez votre vie?
Je fais beaucoup d'activités naturellement à la maison. Et mes amis, les gens qui me connaissent savent que ma porte est ouverte. D'ailleurs, vous pouvez constater que quand j'ai besoin d'un accompagnement pour aller à Paris, j'ai pas trop de difficultés à en trouver.
Non, c'est vrai. Et vous avez toujours des gens très sympas avec qui on peut partager aussi beaucoup de choses.
Voilà, donc...
Et vous vous faites des activités. Quelles sont vos passions? Quelles sont vos...
Lecture, essentiellement.
Oui, je sais que vous êtes boulimique de livres.
Là, je lis énormément. Et puis, je m'occupe de temps en temps de mes petites filles ou des copines des petites filles, enfin...
Oui, comme toute grand-mère...
Qui se respecte, je joue mon rôle. J'essaie de jouer mon rôle de grand-mère aussi bien que je le peux.
Voilà.
J'ai aussi, plus maintenant, parce que ma fille a fait installer un système de réponse automatique pour son travail, mais pendant quelques années, j'ai fait la secrétaire bénévole.
Voilà.
Payée au lance-pierre, madame.
Oui, bien sûr, ça on le sait bien. Mais quelle richesse aussi.
Oui. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pas oublié tout mon anglais.
Comme quoi, vous voyez, ça sert.
Oui.
Et puis, je crois que vous êtes cordiste aussi.
Oui, bien sûr que je suis cordiste. J'ai découvert les cordées en 1993 à peu près, par le journal de la délégation.
Oui.
Je m'étais dit, parce que les amis à qui je racontais des histoires me disaient, mais enfin, tu devrais écrire. Et je me suis dit, plutôt que d'écrire pour écrire, pourquoi ne pas rentrer dans les cordées, puisque ça me paraissait intéressant. Et je ne le regrette pas.
Oui, vous n'avez aucun regret, jamais?
Non. Même quand il y a des
oui.
histoires...
Alors, c'est vrai que vous cumulez, parce que je connais bien, puisqu'on travaille ensemble très régulièrement. C'est vrai qu'Anne-Marie, je le dis à nos auditeurs, elle a la spécialité, c'est quand il y a un problème dans une cordée, et ça peut être que chez elle que ça tombe.
Et c'est pas le petit.
Non, c'est toujours des gros problèmes, c'est toujours des grosses difficultés.
C'est remettre en question pas mal de choses.
Tout à fait. Alors que, vous n'y êtes pour rien, personne n'y est pour rien, c'est le hasard des événements. Mais c'est vrai que...
Je dis que si ça me tombe dessus, c'est peut-être parce que je suis après tout pas trop mal équilibrée et que ça me déstabilisera pas trop. Alors que si ça tombait sur quelqu'un d'autre, ce serait un déséquilibre complet.
D'accord. Donc vous êtes...
Qu'est-ce que je dis d'autre?
Non, mais c'est vrai, vous avez raison, parce que les choses ont toujours été très bien gérées, sans que ça vous fasse trop souffrir quand même, même s'il y a eu des fois, c'était quand même hard. Hein.
Oui, bien sûr. Mais...
Je me rappelle de certains, on ne donnera pas les épisodes ici, mais...
Les détails, parce que c'est quand même...
Ça a été, quand on touche l'humain, il y a des fois, c'est hard. Hein.
Mais oui.
Mais en même temps, c'est tellement beau, parce que c'est vrai que c'est des partages, c'est vrai que c'est obligatoirement des moments fabuleux, et Dieu sait si vous animez, et si vous avez des cordées qui sont animées, qui sont riches, les gens avec qui vous correspondez, sont, puisque vous êtes responsable, vous êtes compagnon de route, eh bien, elles partagent beaucoup. Il y a vraiment des moments très très forts et très beaux d'échanges, de partages, de soutien.
C'est tout simplement, je pense, parce que je fais preuve d'hospitalité.
Oui, tout à fait.
L'hospitalité étant à la fois l'écoute, l'accueil, mais la possibilité pour l'autre de rester autre.
Voilà, il reste ce qu'il est.
Voilà, il doit rester autre.
Tout à fait. Et chacun avec ses spécificités, ses, voilà. C'est quelquefois ses souffrances, ses joies, ses bonheurs, sa vie, quoi, tout simplement.
Ça n'empêche pas de faire une hiérarchie dans les valeurs des uns et des autres, mais une hiérarchie pour moi qui n'est pas forcément à imposer à l'un ou à l'autre.
Oui, oui, tout à fait.
J'essaye d'agir comme ça. Maintenant, certaines fois, je peux très bien aussi faire des bourdes comme tout le monde.
Oh, ben ça,
heureusement, parce que sinon, vous vous rendez compte que je serais un petit peu ennuyante.
Ah ben, tout à fait, alors que c'est vraiment pas le cas, donc on s'en sort bien quand même. Anne-Marie, on arrive malheureusement déjà presque à la fin de l'émission. Quel est l'avenir? Quels sont les projets?
Oh, mes projets d'avenir, ce sont des projets de voyage.
Oui.
Alors, c'est déjà pas mal.
Ben oui, tout à fait.
L'Angleterre, peut-être. La Croatie, pourquoi pas, parce que nous avons accueilli l'année dernière une jeune fille croate.
Oui.
Qui voulait apprendre le français, donc voilà quoi.
Donc vous avez réussi à lui transmettre le français?
Ben disons que, pas le français dans son intégralité, mais je pense une certaine appréciation de la langue française.
L'amour de la langue.
Voilà.
Voilà, et donc, eh bien voilà, eh bien, écoutez...
Ça, c'est déjà des voyages, bon...
C'est déjà bien. On va vous souhaiter de bons voyages.
Merci beaucoup.
Et puis peut-être qu'un jour on vous reprendra pour que vous nous racontiez justement vos voyages.
Eh ben mon Dieu, pourquoi pas quand ils auront eu lieu.
Eh ben voilà. Eh ben en tout cas, merci Anne-Marie de votre témoignage.
Bonne soirée à vous.
Bonne journée à vous aussi. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et qu'ensemble avec l'Association des Paralysés de France, nous fassions face à la vie. Merci, au revoir.